Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, avant que de commencer ce cours, toujours dans les conséquences du mystère de l'incarnation pour nous, je voudrais vous rappeler que j'ai encore des places pour les trois dernières retraites de l'année. Donc la retraite de Semaine Sainte en avril est pleine. J'ai la place par contre à la retraite pour du 27 mai au 1er juin, du 23 septembre au 28 septembre, du 14 octobre au 19 octobre. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez venir à une de ces retraites. Les deux premières retraites sont très bien passées avec la grâce du bon Dieu. Conversion magnifique, Théo Gracias. Espérons que les autres retraites seront tout aussi bonnes. Donc, nous en sommes dans la Tertia Pars, traité sur De Verbo Incarnato, l'incarnation du Christ, à la question 31. La conception du Sauveur quant à la matière dont son corps a été formé. Nous en sommes à l'article 1 de cette question 31 de la Tertia Pars, la chair du Christ a-t-elle été prise d'Adam, de la souche d'Adam? Donc, sur ces questions, je vais aller assez vite. Pour une fois, je m'arrête sur les choses qui sont plus importantes pour nous au niveau du cours, c'est-à-dire pour des catholiques qui découvrent un peu saint Thomas d'Aquin. Il convenait, dit saint Thomas d'Aquin, que le Christ prenne une chair dont la matière venait d'Adam afin de guérir en l'assumant la nature humaine elle-même. Puisque Adam avait péché avec son corps et son âme, il fallait que notre Seigneur Jésus-Christ prenne la même nature humaine pour guérir cette nature qui avait été abîmée en Adam. Et donc ensuite, saint Thomas d'Aquin va continuer. J'ai oublié de vous dire que sur le polycopier, vous avez peu de choses sur ces questions-là qui sont assez secondaires. Mais regardez autour de la page 146 sur le polycopier qui est sur le site. Donc question 31, donc toujours, la chair de Christ a-t-elle été prise de David? Et donc saint Thomas répond positivement en disant que le Christ est issu de la race de David selon la chair, par sa mère, à savoir notre Seigneur Jésus-Marie, mais aussi par son père putatif, à savoir saint Joseph. Donc, le Christ est appelé spécialement le fils de deux anciens pères, Abraham et David. Ce, pour plusieurs raisons, donc il va expliquer. C'est à eux que la promesse du Christ a été adressée spécialement. Donc, en parlant à Abraham, Dieu avait dit dans le livre de la Genèse, « Toutes les nations de la terre seront bénies dans votre descendance. » Donc, les promesses du Christ ont été faites, au Christ et à sa descendance. Et cette descendance est au singulier. Il n'a pas dit les promesses ont été faites au Christ et à ses descendants, mais à sa descendance. Cette descendance, c'est le Christ lui-même. C'est le fruit de vos entrailles, a-t-il dit au roi David, que je mettrai sur votre trône. Donc le Christ devait être roi, prophète et prêtre. Donc Abraham fut prêtre. Il fut aussi prophète, et en tant que prophète, il intercédera pour nous. Quant à David, lui, il fut roi et prophète. Donc entre ces deux pères, Abraham et David, on retrouve la royauté, le caractère de prophète de notre Seigneur Jésus-Christ, le caractère sacerdotal de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc saint Thomas explique également que le Christ est appelé fils, donc issu de la race de David, et par la race de David, issu aussi d'Abraham, pour plusieurs raisons. D'abord, dit-il, parce que la promesse de David, de Christ, a été spécialement appliquée, je l'ai déjà expliqué, à Abraham, a été donnée à Abraham, et à David. Donc, j'ai expliqué aussi que, en suivant saint Thomas, que Abraham fut prêtre et prophète, David, lui, fut roi et prophète. Mais il y a d'autres raisons que va rajouter saint Thomas d'Aquin, expliquant par exemple que c'est avec Abraham qu'a commencé la circoncision qui remplaçait le baptême en quelque sorte pour les hommes au temps de avant notre Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs n'étant pas sauvés par le sacrement de baptême qui n'existait pas encore, mais étant sauvés par leur foi au Christ à venir dans le futur. Donc le Christ est appelé très spécialement fils de David, fils d'Abraham aussi, pour montrer qu'il venait apporter le salut aux Juifs de la circoncision et en même temps aux païens bénéficiant de l'élection. Donc une race royale s'est unie à la race sacerdotale afin que le Christ, qui est à la fois roi et prêtre, puisse naître selon la chair de l'une et de l'autre. Donc on retrouve les deux choses, le Christ étant à la fois roi souverain, prêtre souverain et prophète souverain. Donc on retrouve tout ça dans les ancêtres du Christ, selon son humanité. Dans l'article 3, donc je passe rapidement sur ces questions relativement simples, sur la généalogie du Christ d'après les évangiles. Donc, la généalogie du Christ a été présentée par les évangélistes dans un ordre satisfaisant. Donc, même s'il peut y avoir apparemment des différence entre les différentes lignées expliquées par les évangélistes, qui ne partent pas forcément du même point de départ, l'idée est toujours la même, prouver que notre Seigneur Jésus-Christ, selon la chair, vient bien de la race de David. Ainsi, dit saint Thomas, la généalogie de saint Matthieu, par exemple, symbolise-t-elle que le Christ s'est chargé de nos péchés, car par son origine charnelle, il a assumé la ressemblance de notre chair de péché. Au contraire, la généalogie de saint Luc, elle symbolise la purification de nos péchés qui s'opère par le sacrifice du Christ. Alors là, je passe un peu rapidement parce que ce sont vraiment des détails d'exégèse qui ne sont pas à notre niveau, je dirais. Je veux rester un niveau, tant pour saint Thomas que pour le cours d'exégèse que je donne, un niveau qui rend le cours compréhensible par les gens qui l'écoutent, qui n'ont pas forcément une formation exégétique très complète à partir des pères de l'Église. Alors, continuons dans ces explications que donne saint Thomas d'Aquin. Il cite saint Jérôme, qui explique que la généalogie du Sauveur ne comporte la mention d'aucune sainte femme, mais seulement celle que blâme la Sainte Écriture, pour faire comprendre que celui qui était venu pour les pécheurs, étant descendant des pécheurs, effacerait les péchés de tous. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a accepté, par humilité, pour lui montrer qu'il venait rattraper le péché des hommes, il a accepté d'avoir dans sa généalogie des femmes pécheresses. Dans l'article 4, toujours de la question 31, saint Thomas se pose la question de savoir s'il était convenable que le Christ naisse d'une femme. Il répond, en citant saint Paul, au Galates, chapitre 4, « Dieu envoya son Fils né d'une femme. » Et pourquoi cela est-il tout à fait convenable? D'abord parce que, ainsi, la nature humaine tout entière a été anoblie. Il fallait que la libération de l'homme apparaisse dans les deux sexes, le sexe masculin et le sexe féminin. Donc, puisque c'est l'humanité mâle qui convenait d'assumer comme le sexe le plus honorable, dit saint Thomas, il convenait que la libération du sexe féminin apparaisse du fait que cet homme naîtrait de la femme. Il n'y a pas que l'homme et la femme ne sont pas égaux, mais complémentaires. Encore une fois, la révolution nous, rabâche les oreilles à longueur de journée sur l'égalité entre tous les hommes. Les hommes sont tous égaux devant Dieu dans le sens qu'ils ont tous une âme et qu'ils doivent tous aller au ciel. Mais les hommes et les femmes sont tous inégaux parce que chaque âme est différente. Il y a des âmes de femmes qui sont bien plus grandes que les âmes de certains hommes. La plus grande sainte au ciel, n'oublions pas, est une femme. La Sainte Vierge Marie, peut-être pas oublier ça. Donc c'est la nature humaine tout entière qui a été anoblie, mais chacun, dans la pratique de son devoir d'État, le devoir d'État d'un homme n'est pas le même que le devoir d'État d'une femme. Même si devant Dieu, tous les hommes et toutes les femmes ont la même dignité, dans le sens qu'ils ont tous la nature humaine, cependant il y a des hommes et des femmes qui ont une dignité supplémentaire, supérieure aux autres, parce qu'ils sont baptisés. Les personnes qui sont baptisées, tant les hommes que les femmes, par ce baptême, tirent de ce baptême une dignité spéciale qui fait d'eux des enfants de Dieu. C'est le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Donc, un bouddhiste ou un musulman qui ne sont pas baptisés, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont des créatures de Dieu, bien sûr, mais ce ne sont pas des enfants de Dieu. Il faut bien voir les différences. Donc, il fut souverainement convenable donc que le Christ prit chair de la femme pour anoblir la nature humaine tout entière, tant du côté de la femme que du côté de l'homme, mais aussi parce que cela garantissait la réalité de l'incarnation, afin que vous croyiez qu'il était Dieu, lui qui transformerait la nature, et qu'il était homme, lui qui naîtrait d'un être humain selon la nature. Donc pour que les fidèles réalisent et comprennent que notre Seigneur Jésus-Christ est à la fois Dieu et à la fois homme, il est les deux à la fois. Ne vous méprisez pas vous-même homme, parce que le Fils de Dieu est revêtu un homme, et ne vous méprisez pas vous-même femme, parce que le Fils de Dieu est né d'une femme. Encore une fois, l'homme et la femme sont complémentaires. La femme a un rôle dans la société qui n'est pas celui de l'homme. De même que la reine a un rôle différent de celui du roi. Il ne faut pas oublier toutes ces choses-là qui sont élémentaires. Et là, il y a une très très belle phrase qui est de, je crois, de Saint Augustin. Si le rayon de soleil peut dessécher les immondices des égouts sans en être souillé, combien plus la splendeur de la lumière éternelle peut-elle purifier ce qu'elle irradie sans être elle-même salie? Notre Seigneur Jésus-Christ va charger sur ses propres épaules les péchés des hommes sans être sali par le péché, parce qu'évidemment, il n'a pas accepté le péché, il le porte parce que nous faisons le porter, ce qui n'est pas du tout pareil. Le corps du Christ, se demande saint Thomas, a-t-il été formé du sang le plus pur de la Vierge Marie? Bon, il va répondre en citant saint Jean Damascène. Le Fils de Dieu, dit-il, s'est édifié une chair animée par l'âme raisonnable à partir du sang le plus chaste et le plus pur de la Très Sainte Vierge Marie. C'est pour ça qu'il a voulu que la Très Sainte Vierge Marie soit immaculée dans sa conception. Immaculée dans sa conception parce que c'est elle qui devait donner à partir de son corps, à partir de son sang, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'article 6 de cette même question 31, saint Thomas se pose la question de savoir si la chair du Christ a existé chez les anciens patriarches selon un élément déterminé. Et voilà ce qu'il répond dans le corps de cet article. Il va dire que le corps du Christ n'a pas existé en Adam ni chez les autres pères selon un élément déterminé. En effet, le corps du Christ, dit saint Thomas, n'a existé que par son origine, comme la chair des autres hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps du Christ se rattache au corps d'Adam et des autres patriarches par l'intermédiaire du corps de sa mère. Donc ce corps n'a pas existé dans les patriarches autrement que le corps de sa mère, qui n'a pas existé chez ses ancêtres selon une matière déterminée, pas plus que les corps des autres hommes. Donc, bien que notre Seigneur Jésus-Christ vienne de la lignée de David, cependant, c'est sa mère seule, qui lui a donné son propre corps. Article 7. La chair du Christ, chez les patriarches, fut-elle sujette au péché? Il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été contaminé par le péché originel. Toute la chair des anciens pères fut sujette au péché et qu'il n'y avait en elle aucune partie qui échappa au péché, dont par la suite le corps du Christ serait formé. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, dans son humanité, n'a pas été contaminé par le péché, le péché originel. Hein. C'est absolument évident. N'oublions pas qu'il n'y a que dans les créations de Dieu, il n'y a que deux créations qui sont préservées du péché originel au niveau des hommes. C'est la création de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Immaculée Conception, et la création aussi de l'âme de la Très Sainte Vierge Marie, qui elle aussi est Immaculée Conception. Alors je passe sur d'autres articles qui sont relativement secondaires, comme l'article 8, le Christ a-t-il payé la dîme comme étant présent dans son aïeul Abraham ? Parce que ce sont des détails qui, à mon avis, ne sont pas très importants à ce niveau du cours. Alors, continuons d'avancer. Je m'arrête encore une fois sur les choses qui sont plus importantes pour vous. On va passer tout de suite à la question numéro 32, le principe actif de la conception du Christ. Donc, le Saint-Esprit a-t-il été, c'est la première question que se pose saint Thomas, le Saint-Esprit a-t-il été le principe actif de la conception du Christ ? Et saint Thomas répond en citant saint Luc au début de son évangile, la parole de l'ange Gabriel, l'Esprit Saint viendra sur vous. Donc on attribue au Saint-Esprit la conception du corps du Christ, qui est l'œuvre de toute la Trinité en soi, mais est néanmoins attribuée au Saint-Esprit parce que cela convient au motif de l'incarnation envisagée du côté de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cela nous aide à comprendre la grandeur de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela convient aussi au motif de l'incarnation envisagée du côté de la nature assumée. Cela convient aussi au terme de l'incarnation. Comme nous-mêmes nous sommes sanctifiés spirituellement par le Saint-Esprit pour devenir fils adoptifs de Dieu par le baptême, ainsi le Christ a-t-il été conçu dans la sainteté par le Saint-Esprit pour être fils de Dieu selon la nature divine. Sans doute, l'œuvre de conception est commune à toute la Trinité, cependant, dit saint Thomas, suivant tel ou tel aspect, on peut l'attribuer à chacune des personnes. Bon. Et même si on attribue cela à chacune des personnes, toute la Sainte Trinité est concernée en même temps. On reviendra sur ces questions-là plus tard. Là, je vais assez vite parce que saint Thomas lui-même couvre ces choses-là assez rapidement. Article 2, peut-on dire que le Christ a été conçu du Saint-Esprit ? Bon, mais c'est évident qu'il suffit de reprendre le texte de l'explication donnée par l'ange Gabriel. Et c'est également dans une phrase qu'on trouve dans saint Matthieu, avant qu'ils eussent habité ensemble, Marie et Joseph, Marie se trouva enceinte de l'Esprit Saint. Donc on peut vraiment dire que le Christ a été conçu du Saint-Esprit. D'ailleurs c'est dans le credo, a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Donc c'est un dogme de foi, attention. Le Saint-Esprit est-il père du Christ selon la chair ? Bon, attention, alors saint Augustin répond, le Christ n'est pas né fils du Saint-Esprit, mais fils de la Vierge Marie. Donc le Christ n'a pas pris son humanité dans le Saint-Esprit, mais dans le corps de notre Sainte Vierge Marie. Alors ici, il y a une explication très importante donnée par saint Thomas d'Aquin. Donc on est dans la question 32, la tertia pars, article 3, voilà ce qu'il dit. Il y a en l'homme une certaine ressemblance imparfaite en tant qu'il a été créé à l'image de Dieu et en tant qu'il est recréé selon la ressemblance de la grâce. Et c'est pourquoi, des deux manières, l'homme peut être appelé fils de Dieu. Et parce qu'il a été créé à son image et parce qu'il est venu à la ressemblance que donne la grâce. Donc en tant qu'ayant une âme, étant un être surnaturel, appelé à une fin surnaturelle, donc tous les hommes sont créés à l'image de Dieu, mais par la grâce sanctifiante, les hommes sont recréés, cette fois-ci à la ressemblance de Dieu. C'est une phrase importante. La Très Sainte Vierge Marie, il est évident, a eu un rôle actif dans la conception du Christ, puisque c'est elle qui a donné à notre Seigneur Jésus-Christ sa nature humaine. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ vient directement de la Très Sainte Vierge Marie. Et saint Thomas d'Aquin va l'expliquer dans le corps de l'article, voilà ce qu'il dit. Il faut donc tenir que dans la conception du Christ, la Très Sainte Vierge Marie a fourni la matière du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a exercé aucune activité, mais elle n'a fourni que la matière. Cependant, avant la conception, elle a été active en préparant la matière pour qu'elle soit apte à la conception. La Très Sainte Vierge Marie, il ne faut pas oublier, a été enceinte des œuvres du Saint-Esprit, miraculeusement, sans l'intervention d'un homme, une semence humaine. Mais une fois que l'enfant Jésus a été créé dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie, elle a porté l'enfant Jésus en son sein pendant 9 mois, du 25 mars au 25 décembre, selon les lois de la nature. C'est ce que veut dire saint Thomas. Donc cette conception a comporté 3 privilèges, d'échapper au péché originel, puisque la Sainte Vierge était conçue sans péché originel, de venir non de l'homme seul, mais de l'homme et de Dieu, et d'être une conception virginale. La Sainte Vierge Marie, ne pas oublier, est Vierge et mère. Et elle est mère tout en étant vierge, et elle est vierge tout en étant mère. Alors, saint Thomas donc continue avec la question 33, selon le mode et l'ordre de la conception du Christ. Il se pose la question de savoir si le corps du Christ a été formé au premier instant de sa conception. Donc, à l'annonce de l'ange et à la venue de l'Esprit Saint, aussitôt que le Verbe est dans le sein de la Vierge, il devint chair. Donc, au moment précis où la Très Sainte Vierge Marie a dit à l'ange qu'il en soit fait en moi selon votre parole, une fois qu'elle a eu la promesse de l'ange que son vœu de chasteté serait respecté, puisque l'Esprit Saint la couvrirait de son ombre, et que donc l'œuvre miraculeuse qui va se faire dans son sein, c'est-à-dire l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, se ferait sans qu'elle perde son vœu de virginité, à ce moment-là, elle a accepté. Elle est devenue, à cet instant précis, au moment précis où elle a donné son accord, qu'il en soit fait à moi selon votre parole, notre Seigneur devint chair dans le sein très pur de sa mère. Alors, continuons avec le texte de saint Thomas d'Aquin. Ce sont des questions un peu secondaires, mais en même temps un peu compliquées. Ce sont des questions très philosophiques. Donc, saint Thomas se pose la question de savoir si le corps du Christ a été animé dès le premier instant de sa conception. Attention, pour juger tous ces passages-là, il faut ne pas oublier ce que je vous ai déjà expliqué, qu'à l'époque, au temps de saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, l'embryologie était pratiquement totalement inconnue. On ne savait pas du tout comment, littéralement, un enfant grandissait dans le sein maternel. Donc, saint Thomas répond en citant saint Jean Damascène. C'est en même temps qui a eu la chair du Verbe de Dieu, et la chair animée par une âme rationnelle et intellectuelle. Donc, c'est la réponse, le corps du Christ a été animé dès le premier instant de sa conception. Aussi a-t-il fallu qu'au premier instant de sa conception, le corps du Christ soit animé par une âme rationnelle. Il ne peut pas y avoir d'homme sans l'existence d'une âme. Donc, c'est pour ça que l'avortement est un crime, parce que même tout à fait au début, c'est-à-dire au moment des premières divisions cellulaires, après l'union entre la gamète maternelle et la gamète féminine dans le sein d'une maman, au moment précis où se fait cette union, à cet instant précis, il y a déjà un homme. Donc, puisqu'il y a un homme, un petit homme, qui va descendre dans les trompes utérines pour aller s'implanter dans le tiers supérieur de l'utérus de la maman, eh bien, cet homme, étant vraiment homme, ce petit homme, a une âme et un corps. C'est absolument évident. Sinon, il ne serait pas un homme. La définition d'un homme, c'est l'union d'une âme et d'un corps. Donc, le corps de Christ a été assumé par le Verbe dès le premier instant de sa conception. « Donc la chair du Christ, dit saint Thomas, n'a pas été conçue dans le sein de la Vierge avant d'être prise par le Verbe. Tout s'est passé en même temps. Donc nous soutenons, dit saint Thomas, que la conception fut instantanément parfaite, et s'ensuit donc que dans cette chair, l'acte de la conception et son résultat ont été simultanés, tout s'est fait en même temps. Saint Thomas va préciser, la conception du Christ ainsi doit être dit absolument miraculeuse et surnaturelle, dans le sens qu'elle a commencé de façon surnaturelle, bien qu'elle soit naturelle à certains égards, dans le sens que la Très Sainte Vierge Marie a gardé l'enfant Jésus, une fois sa conception faite miraculeusement, elle l'a gardé en son sein de façon naturelle. Donc, cette conception du Christ est naturelle à certains égards, et à d'autres égards, elle est absolument miraculeuse et surnaturelle. Et saint Thomas donc va continuer d'expliquer les choses en précisant que la perfection du Christ existe dès sa conception. Il a été sanctifié par la grâce, par exemple, dès sa conception. Il s'ensuit, dit saint Thomas, qu'au premier instant de sa conception, le Christ a eu la plénitude de la grâce qui sanctifiait son âme et son corps. Si la très sainte Vierge Marie était pleine de grâce, rappelez-vous le texte de l'ange Gabriel, je vous salue Marie, pleine de grâce, bien, c'est évidemment encore plus vrai pour notre Seigneur Jésus-Christ qui a eu cette plénitude de grâce qui sanctifie à la fois son âme et son corps. Pour distinguer, c'est une remarque intéressante de saint Grégoire le Grand, il dit, pour distinguer de la nôtre la sainteté de Jésus, on dit qu'il naîtra saint. Nous devenons saints. Nous ne naissons pas saints parce que nous sommes captifs par la condition de notre nature corruptible. Le Christ seul est vraiment saint de naissance, lui qui n'a pas été conçu dans une union charnelle. On peut dire qu'il y a aussi, pas au même degré bien sûr, une sainteté dès le début de notre Seigneur Vierge Marie, parce qu'elle a été conçue dans le sein de sa mère, sainte Anne, elle a été conçue sans le péché originel. Alors, les conséquences sont importantes, et saint Thomas d'Aquin va maintenant couvrir les conséquences de ce qu'il vient d'expliquer, les conséquences du mystère de l'incarnation. Donc par exemple, le Christ, au premier instant de sa conception, puisqu'il y avait eu âme, qui dit âme, dit usage de son libre arbitre. Bon, certes, un enfant qui vient naître n'a pas encore l'usage de son libre arbitre en acte, mais il a l'usage de son libre arbitre, en puissance. Donc le Christ, au premier instant de sa conception, comme il a eu la plénitude de la grâce sanctifiante, a eu de même la plénitude de la vérité, comme il a eu celle de la grâce sanctifiante, selon la parole de saint Jean, qu'il était plein de grâce et de vérité. Et aussi, ayant la certitude de toute chose, il a pu faire son choix instantanément. Donc au premier instant de sa conception, le Christ non seulement a eu l'usage de son libre arbitre, mais à cause de cela, il a mérité devant son Père. Même mérité de façon infinie, puisque son humanité était liée à la divinité de la Sainte Trinité. Et le Christ, à cause de cela, à cause de cette union entre l'humanité et la divinité en la personne du Christ, donc le Christ a joui dès le premier instant de sa conception, par exemple de la vision béatifique. Et saint Thomas va expliciter la chose en disant que c'est au premier instant de sa conception que la nature humaine a été assumée ainsi. Donc en ce même instant, le Christ en tant qu'homme a été bienheureux, donc dès le début. Passons maintenant à une autre sous-partie de ce grand traité sur l'incarnation du Christ, avec la question 35, donc sur la naissance du Christ. Donc on va maintenant suivre la vie de notre Seigneur Jésus-Christ pendant toute cette partie de la tertia pars. Donc on va suivre notre Seigneur Jésus-Christ depuis sa naissance jusqu'à la passion et la mort sur la croix, puis la résurrection. Donc, cette question 35 va se traiter de la naissance du Christ. Au début de cette question 35 de la Tertia Pars, saint Thomas se pose la question de savoir si la naissance appartient à la nature ou à la personne. Il répond, citant saint Jean de Damascène, comme quoi cette naissance regarde la personne, non la nature. En philosophie, on dit que la nature est ce par quoi un être existe, alors que la personne est ce qui possède l'être subsistant. Donc, ce sont des choses sur lesquelles je n'insiste pas, parce qu'encore une fois, je ne veux pas transformer ce cours d'initiation à la somme théologique de saint Thomas d'Aquin en un cours de haute philosophie. Alors, faut-il attribuer, se demande saint Thomas, au Christ une autre naissance que sa naissance éternelle? Et voilà ce qu'il va répondre. Donc, nous confessons, dit-il, deux naissances dans le Christ, l'une éternelle qui est celle du Père, donc qui est du Père, et l'autre qui a lieu dans le temps pour nous. Bon. Il y a que notre Seigneur Jésus-Christ a constamment, de toute éternité, une relation de filiation qui vient du Père au Fils, dans la Sainte Trinité, de même que du Père au Fils, plus exactement du Fils au Père, il y a éternellement dans la Sainte Trinité une relation de filiation, donc de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Fils de Dieu. Mais de même, on peut dire qu'entre le Père et le Fils, dans la Sainte Trinité, il y a éternellement une autre relation, qui est une relation de paternité. Ainsi, dans le Christ, il y a deux natures, l'une qu'il a reçue du Père de toute éternité, qui est la nature divine, et l'autre qu'il a reçue de sa mère dans le temps, qui est la nature humaine. Il est donc nécessaire d'attribuer au Christ deux naissances, l'une par laquelle il est né éternellement du Père, l'autre par laquelle il est né de sa mère dans le temps, le 25 mars. C'est pour cela, on verra ça plus tard, que notre Seigneur Jésus-Christ a véritablement, dans sa personnalité, il a deux intelligences et deux volontés. Il a une intelligence divine et une intelligence humaine, une volonté humaine et une volonté divine. Il a les deux choses à la fois, ce qui est pour nous un grand mystère. Donc, la très sainte Vierge Marie est réellement et vraiment la mère du Christ. Vous savez, je l'ai déjà expliqué souvent, qu'au début, il a fallu attendre le concile d'Éphèse, je crois que c'était en 431, pour que l'Église vraiment dise que Notre-Dame est mère du Christ, elle est donc mère de Dieu, puisqu'elle est mère d'une personne qui est à la fois homme et Dieu. Donc, elle n'est pas Dieu elle-même, elle est mère de Dieu. Elle est vraiment la mère du Christ. Et on voit que saint Thomas reprend historiquement un petit peu toutes ces choses-là, en se posant la question, c'est l'article 4 de la question 35 qui se pose la question de savoir si la bienheureuse Vierge Marie doit être appelée Mère de Dieu. Évidemment, il va répondre positivement en citant justement saint Cyril d'Alexandrie au concile d'Éphèse. Si quelqu'un ne confesse pas que l'Emmanuel est vraiment Dieu et que par suite la Sainte Vierge est Mère de Dieu, puisqu'elle a engendré selon la chair qui est devenue celle du verbe divin, qu'il soit anathème. Donc il est de foi que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu et homme. Donc la très sainte Vierge Marie est aussi de foi et Mère de Dieu. Donc tout ce qui convient à la nature divine, à la nature humaine, peut être attribué à cette personne qu'il s'agisse de nom désignant la nature divine ou se rapportant à la nature humaine. Quoique qu'on ne trouve pas expressément dans l'Écriture les termes que la Vierge soit la Mère de Dieu, on y trouve pourtant explicitement que Jésus-Christ est le Dieu véritable et que la bienheureuse Vierge Marie est Mère de Jésus-Christ. Dans ce cas, dans Saint Matthieu, chapitre 1, verset 18. Il en résulte donc nécessairement que des paroles de l'Écriture, que la Vierge est véritablement Mère de Dieu. La bienheureuse Vierge Marie est appelée Mère de Dieu, non pas qu'elle soit la Mère de la Divinité, mais parce qu'elle est Mère, la Mère selon l'humanité, de la personne qui possède la Divinité et l'humanité. Elle est Mère d'un enfant qui est à la fois Dieu et homme. Donc, saint Thomas d'Aquin creuse la chose en expliquant qu'il n'y a donc dans le Christ qu'une seule filiation. Ce n'est pas par une seule et même naissance que le Christ est né de son Père dans toute l'éternité et de sa Mère dans le temps. Parce qu'il est né de sa Mère le 25 mars. Mais de toute éternité, il est né de son Père dans le sein de la Sainte Trinité. Donc en se plaçant à ce point de vue, il faudrait donc dire qu'il y a dans le Christ deux filiations diverses, l'une temporelle dans le temps et l'autre éternelle dans l'éternité. le Christ ainsi est donc appelé réellement fils de la Vierge, sa mère, en raison de la relation réelle de maternité entre elle et le Christ. Il faut rappeler ces choses contre toutes les inepties sur ce sujet des protestants surtout et des modernistes. Donc, d'une certaine manière, il n'y a dans le Christ qu'une seule filiation réelle, celle qui regarde le Père éternel. Cependant, on y conçoit aussi un autre point de vue temporel, celui-là, celui qui regarde la mère temporelle. Alors, saint Thomas va encore continuer de creuser dans ses méandres philosophiques, en rappelant que, bien qu'elle était réellement mère, qu'elle a enfanté, comme toutes les mères, elle a enfanté sans douleur, sans aucune lésion physique. Parfois, on rencontre dans certains écrits du Moyen-Âge ou des vieilles chansons populaires sur la passion du Christ, la naissance du Christ, on dit que la Très Sainte Vierge Marie était dans les douleurs avant la naissance du Christ. Non, la Très Sainte Vierge Marie n'était pas dans les douleurs parce que les douleurs de l'enfantement sont des conséquences du péché originel. Oh, la Très Sainte Vierge Marie n'ayant pas de péché originel n'avait pas de douleur dans l'enfantement. Donc elle a enfanté sans douleur. Elle engendrait donc sans douleur, sans atteinte à son intégrité, elle est demeurée dans une parfaite virginité. Elle est donc vierge avant, pendant et après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc saint Thomas continue, là je vais assez vite, sur le lieu de la présence, de la naissance du Christ, c'est question 35, article 7. Donc il va expliquer que la Très Sainte Vierge Marie, il va expliquer donc le lieu de naissance de l'enfant Jésus, Bethléem d'Ephrata, et il cite le prophète Michée, et toi, Bethléem d'Ephrata, tu es toute petite parmi les chefs dieux de Juda, et c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit régner sur tout Israël. Le Christ voulut donc naître à Bethléem où David était né, afin de montrer par le lieu même de sa naissance l'accomplissement de la promesse qui lui avait été faite. Il y a un deuxième motif pour naître à Bethléem, indiqué par le pape Saint Grégoire. Bethléem se traduit « maison du pain ». Or le Christ est celui qui a dit « Je suis le pain du vivant qui est descendu du ciel ». Le Christ donc a confondu la vaine gloire des hommes qui s'enorgueillissent de naître dans des villes réputées et cherchent à y être honoré. À l'inverse, le Christ a voulu naître dans une cité sans gloire, Bethléem, et souffrir l'opprobre dans une cité illustre, à savoir Jérusalem, qui naît dans la pauvreté, mais va vouloir mourir dans une grande ville pour que tout le monde puisse savoir ce qui a été fait. Donc, si le Christ avait choisi la grande cité de Rome, on aurait attribué la conversion du monde au prestige de ses concitoyens. S'il avait été fils d'un empereur, par exemple, on aurait attaché sa réussite à sa puissance. Mais afin de faire reconnaître que sa divinité avait transformé le monde, il choisit une mère très pauvre et une patrie plus pauvre encore. Donc, pour bien montrer que cette diffusion du christianisme n'est pas due à des raisons purement naturelles, mais à des raisons surnaturelles. Afin de montrer son pouvoir, c'est de Rome même, capitale du monde, qu'il fit la capitale de son Église en signe de victoire parfaite. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, il est évident, va naître lorsque sera venue la plénitude des temps. Et à cette plénitude des temps, fixée par notre Seigneur, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi. Donc, il était cependant venu pour nous ramener de l'état de servitude à l'état de liberté. Nous étions tombés dans l'esclavage à cause du péché, des conséquences du péché. Donc le Christ était bienvenu, dit saint Thomas, pour nous ramener de l'état de servitude à l'état de liberté, la véritable liberté. Alors saint Thomas va donc après passer les différents événements de la naissance du Christ, donc ça je vais assez vite parce que c'est facile. Donc il se pose d'abord la question numéro 36 qu'on commence maintenant, de savoir si la manifestation du Christ a déjà une manifestation du Christ a eu lieu à sa naissance. Donc, il se pose la première question, article 1 de la question 36 de la Tertia Pars, sa naissance du Christ devait-elle être manifestée à tous? Donc, il répond négativement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La naissance du Christ ne devait pas être manifestée communément à tous. D'abord, parce que cela aurait empêché la rédemption des hommes, qui s'est réalisée par la croix du Christ. Ensuite, parce que cela aurait diminué le mérite de la foi par laquelle il est venu justifier les hommes. C'est pour ça que Dieu a voulu envoyer ses apôtres aller baptiser, prêcher. Celui qui croira sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, deuxièmement, si, donc reprenons le raisonnement de saint Thomas d'Aquin, la naissance du Christ ne devait pas être manifestée comme un humain à tous d'abord, cela aurait empêché la rédemption des hommes qui s'est réalisée par la croix du Christ, qui est arrivée plus tard. Ensuite, parce que cela aurait diminué le mérite de la foi par laquelle il est venu justifier les hommes. Et enfin, troisième raison, parce que cela aurait jeté le doute sur la réalité de son humanité. S'il était passé directement de la petite enfance à la jeunesse, il n'avait pris aucune nourriture, aucun sommeil, n'aurait-il pas donné des armes à l'erreur? N'aurait-on pas cru qu'il n'avait en lui en rien assumé l'homme véritable? En produisant tout par miracle, n'aurait-il pas détruit l'œuvre de sa miséricorde? Et on voit bien les choses. Alors, cette naissance du Christ, dit saint Thomas, va être manifestée non pas à tout le monde, mais à certains. Parce que c'est une loi de la sagesse divine que les dons de Dieu, les secrets de sa sagesse ne parviennent pas uniformément à tous. Ils sont d'abord communiqués directement à certains et par leur intermédiaire, les autres vont également en bénéficier. Donc la même règle s'était imposée au sujet de la naissance du Christ, manifester celle-ci non pas à tous mais à quelques-uns, par l'entremise desquels la connaissance en parviendrait aux autres hommes. Le bon Dieu a voulu que les hommes soient sauvés, il veut que tous les hommes soient sauvés, mais il a utilisé des intermédiaires qui sont ses prédicateurs, surtout les apôtres bien sûr. Il fallait donc que la naissance du Christ soit manifestée à des étrangers dont le témoignage ne pouvait être suspect. Si ce témoignage n'avait été rendu que par les Juifs, on aurait pu ne pas les croire. Mais si c'est rendu aussi par des païens, des gens qui viennent du monde, donc c'est plus facile à croire. On voyait aussi là-dedans, disent les pères, la préfiguration du pouvoir judiciaire du Christ. Parce que cette manifestation de la naissance du Christ préfigurait donc le pouvoir judiciaire du Christ et symbolisait aussi la destruction du règne des démons. Alors, saint Thomas va rentrer dans les détails pour savoir à qui cette manifestation, cette naissance du Christ devait-elle être manifestée. Donc il va répondre en disant que le salut qui devait être réalisé par le Christ concernait toutes les catégories d'hommes. Et pour que cela soit préfiguré dans la naissance même du Christ, il a été manifesté à des hommes de toutes conditions. Les bergers étaient des Israélites et les mages des païens. Les uns habitaient tout près, les autres venaient de loin. Les uns les autres se rejoignirent en s'unissant à la pierre angulaire, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. On voit les différences. Les mages étaient sages et puissants, les bergers ignorants et grossiers. Il s'est aussi manifesté à des justes comme Siméon et Anne, à des pécheurs comme les mages. Il s'est encore manifesté à des hommes et à des femmes comme Anne pour montrer que nulle condition humaine n'est exclue du salut du Christ. Donc ça répond à l'objection qu'on entend très souvent dans l'Église moderne, à savoir que notre Seigneur Jésus-Christ c'est l'Église des pauvres. C'est pas l'Église des pauvres, c'est l'Église de tout le monde. Tout le monde est appelé à aller au ciel, y compris les gens riches. Mais il est plus difficile pour un riche de monter au ciel que pour un chameau, nous dit notre Seigneur, de passer par le trou d'une aiguille. Il ne faut pas oublier tous ces détails de l'Évangile qui sont importants. Alors continuons, donc je vais assez vite, encore une fois. Cela ne vous empêche pas, je vous l'ai déjà dit je ne sais pas combien de fois, mais j'insiste, ne vous empêche pas d'aller directement dans le texte pour ceux qui ont un peu de temps. Le Christ devait-il se manifester lui-même ou par d'autres? La question... Article 4 de la question numéro 36. Donc le Christ a montré en lui-même une naissance pareille à celle des faibles hommes, tandis qu'il a montré par l'intermédiaire des créatures de Dieu qu'il possédait la puissance de la divinité. Voilà pourquoi ce n'est pas par lui-même que le Christ a manifesté sa naissance, mais par d'autres créatures. Il va manifester sa naissance par exemple par les bergers, il va manifester sa naissance par les rois mages. Donc tout le monde est invité, et les riches et les pauvres. Donc il y a d'abord les anges qui viennent à la grotte de Bethléem, puis les pauvres, à savoir les bergers, et enfin les riches, les rois mages. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va manifester sa divinité par l'intermédiaire de ses créatures. Et il est tout à fait possible qu'il manifeste sa divinité en utilisant vous et moi comme des instruments de cette divinité. Donc le Christ, dit saint Thomas, Et je pose la question de savoir, c'est l'article 5 de la question 36, par quels autres moyens le Christ aurait-il dû se manifester? Voilà ce qu'il répond. Les justes sont intimement et ordinairement enseignés par une impulsion intérieure du Saint-Esprit sans production de signes sensibles, c'est-à-dire par l'esprit de prophétie. Mais d'autres, adonnés à des activités corporelles, sont conduits par des moyens sensibles aux vérités intelligibles. Cela est logique. Pourquoi? Parce qu'il explique donc que les bergers étaient des juifs, chez qui les apparitions d'anges étaient fréquentes. La naissance du Christ, donc, leur a été révélée par des anges. Mais quant aux mages qui étaient accoutumés à observer les corps célestes, c'était des astronomes. Donc, hommage, il leur fut manifesté par le signe de l'étoile. Donc, les Juifs, dit Saint Grégoire, comme usant de la raison, devaient être avertis par la prédication d'un être raisonnable, à savoir l'ange ou les anges, mais les païens, qui ne savaient pas employer leur raison à connaître le Seigneur, sont conduits non par la parole, mais non par des signes. Donc, en fonction des gens à qui ils s'adressent, notre Seigneur Jésus-Christ va changer les intermédiaires. Mais la vérité est toujours la même, bien entendu. Il ne faut pas oublier ça. On ne peut pas changer toutes ces choses. Alors, en parlant des mages, Saint Léon le Grand dit que, outre l'éclat qui frappait leur regard corporel, un rayon plus brillant au cours de la vérité pénétrait jusque dans leur cœur et les enseignait, ce qui se rattache à la lumière de la foi. Et c'est la raison pour laquelle les trois rois mages seront plus tard baptisés par Saint Thomas, apôtre lui-même. Donc, la naissance du Christ s'est manifestée d'abord aux bergers, le jour même. Puis les mages arrivèrent auprès du Christ 13 jours après la naissance, jour où l'on célèbre l'Épiphanie, donc le 6 janvier. Et enfin, la manifestation au juste dans le temple eut lieu le 40e jour après la naissance du Christ, quand notre Seigneur va apparaître au temple et va se retrouver dans les bras du vieillard Siméon. Donc, il y a un ordre. Pourquoi? Parce que les bergers symbolisent les apôtres et les autres juifs croyants, auxquels la foi au Christ fut manifestée en premier, parmi lesquels il n'y a eu pas beaucoup de puissants ni beaucoup de nobles. Ensuite, la foi au Christ parvient à la plénitude des nations, préfigurée par les mages. Et enfin, la plénitude des justes, préfigurée par les justes. De là vient aussi que le Christ leur fut manifesté dans le temple des Juifs. Donc encore une fois, l'Église catholique, ce n'est pas simplement l'Église des pauvres, c'est l'Église de tout le monde. Donc il y a les pauvres et les riches. Les pauvres, ce sont les bergers, et ensuite les riches, à savoir les mages. Alors, selon certains pères, comme Saint Jean Chrysostome et Saint Augustin, il y a un espace de temps qui s'est passé entre l'étoile apparue aux mages et la naissance du Christ. Et certains pères, donc Saint Jean Chrysostome et Saint Augustin, pensent que le voyage des mages a duré jusqu'à 2 ans. Voilà pourquoi Hérode, aussitôt après le départ des mages, ordonna, quand il se rend compte qu'il avait été floué, quand il se fit jouer par eux, de tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, car il se demandait si le Christ n'était pas né au moment où, d'après les mages, l'étoile était apparue. Alors, Saint Thomas d'Aquin va maintenant parler de cette étoile miraculeuse qui est apparue et qui a servi de guide au roi mage. C'est la question 36, article 7, l'étoile par laquelle la naissance du Christ fut manifestée. Donc c'est un astre nouveau, dit Saint Thomas, apparu pour l'enfantement nouveau d'une vierge. Donc cette étoile apparue aux mages n'était pas une étoile comme les autres étoiles du ciel, parce que d'abord aucune étoile autre ne suit cette même direction. Car cette étoile mystérieuse se portait du nord au midi, car c'est en effet la situation de la Judée par rapport à la Perse, d'où les mages sont venus. Encore une fois, là, les Perses ne sont pas d'accord entre eux, c'est-à-dire le point de départ des mages. On ne sait pas très bien d'où ils venaient. Certains pères pensent qu'ils venaient de Perse, d'autres pensent qu'ils venaient d'Arabie Heureuse, Arabie Saoudite. Donc, quant au temps, cette étoile apparaissait pas simplement la nuit, mais aussi en plein jour. Parfois elle se montrait, parfois elle se cachait. Donc c'est vraiment une étoile qui agit de façon spéciale. Elle n'avait pas un mouvement continu comme les autres étoiles, mais elle s'arrêtait en certains lieux. Par exemple, elle va s'arrêter pendant que les rois mages sont à Jérusalem pour demander des nouvelles, des renseignements plus précis au roi Hérode et à Caïphe. Donc elle ne montrait pas simplement l'enfantement de la Vierge en demeurant en l'air, mais aussi en descendant. Donc ce sont des mouvements qui ne sont pas habituels dans une étoile. Elle a été une étoile créée à nouveau, non dans le ciel, mais dans l'air proche de la Terre, et qu'elle se mouvait selon la volonté de Dieu. Cependant, ce n'était pas une lumière artificielle, c'était une étoile, mais avec des propriétés particulières. Alors nous passons maintenant à des articles beaucoup plus faciles, mais intéressants. Je vais vous donner un peu la moelle de ces articles. Donc nous en sommes à la question 36, article 8. Article 8, question 36, sur l'adoration des mages. Voyons ce que dit saint Thomas sur ce sujet. Donc les mages ont montré, donc il se pose la première question, c'est de savoir, il veut parler de l'adoration des mages. Donc quelle était cette adoration? Et il dit bien qu'ils ont montré la vénération envers le Christ, et même une adoration, parce qu'ils ont compris de façon qu'une grâce particulière du bon Dieu, même s'ils n'étaient pas encore catholiques, ils ont compris que notre Seigneur Jésus-Christ, l'enfant Jésus, était Dieu. Même s'ils seront baptisés plus tard. La tradition nous dit que les rois mages seront baptisés par l'apôtre saint Thomas en Arabie plus tard. Donc, saint Thomas va utiliser un texte de saint Augustin aussi. Voilà ce qu'il dit quant aux Juifs qui indiquèrent au roi mage le lieu de la naissance du Christ. Ils ressemblèrent aux ouvriers qui bâtirent l'arche de Noé. C'est-à-dire qu'ils fournirent aux autres le moyen d'échapper, mais eux-mêmes périrent dans le déluge. Alors que ceux qui enquêtaient, écoutèrent et partirent, les savants parlèrent et restèrent, pareil aux bornes militaires qui indiquent la route mais qui ne marchent pas. Un très beau texte. Et donc, le roi Hérode entend parler de l'enfant Jésus, Caïphe entend parler de l'enfant Jésus, ou pas Caïphe, le prédécesseur de Caïphe entend parler de l'enfant Jésus, donc les membres du Sanhédrin entendent parler de l'enfant Jésus, ils savent qu'il arrive, mais ils ne bougent pas, ils ne vont pas l'adorer. Alors qu'au contraire, les rois mages, eux, cherchaient le vrai. Donc, soyons pas, nous aussi, comme ces bornes militaires, qui indique la route, mais qui ne marche pas. Nous avons des oreilles, mais nous n'entendons pas. Nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas. Nous avons des muscles pour bouger, on ne fait rien. Et là, il y a un très beau texte de Saint Jean Chrysostome qui dit que les mages virent un homme, mais reconnurent un Dieu. Et ils offrirent des présents accordés selon la dignité du Christ, l'or comme au grand roi, l'encens qui sert dans les sacrifices divins comme à Dieu, l'enfant. C'est le symbole de la prière, l'or c'est le symbole du pouvoir royal, et la myrrhe c'est le symbole de l'esprit de pénitence, donc c'est le symbole de l'humanité du Christ. Donc l'or au roi, l'encens au Dieu, la myrrhe à l'homme. Pourquoi? Parce que la myrrhe, dont on embaume les corps des défunts, comme à celui qui doit mourir pour le salut des hommes. Donc la myrrhe s'adresse à l'humanité. Ils virent un enfant, ils reconnaissent dans cet enfant un roi, donc ils donnèrent l'or, un Dieu, ils donnèrent l'encens, et un homme donnèrent la myrrhe. Nous apprenons par là à offrir au roi nouveau-né l'or, qui symbolise la sagesse. Lorsque nous resplendissons en sa présence de la lumière de la sagesse, l'encens, au contraire, qui exprime le don de soi dans la prière, nous le font comme par l'ardeur de notre prière, nous exhalons devant Dieu une bonne odeur, et enfin la myrrhe, qui symbolise la mortification de la chair, nous le ferons si nous mortifions nos vices charnelles par l'abstinence. Donc on a vu tout ça dans le cours d'exégèse que je vous recommande pour tous ceux qui veulent avoir plus de renseignements là-dessus. Voyez les premiers chapitres des évangélistes. Actuellement, je suis dans l'explication de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 19. Donc il y a beaucoup de travail, mais rien ne vous empêche d'aller travailler ces cours qui sont également sur le site internet. Alors, voyons un petit peu rapidement les prescriptions légales observées au sujet de l'enfant Jésus. Donc, on continue d'avancer dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va parler, là, Saint-Thomas va parler de la circoncision, donc qui remplaçait en quelque sorte le baptême, parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas encore institué le sacrement de baptême. Donc, le Christ allait être circoncis pour montrer la réalité de sa chair humaine, d'abord, puis pour approuver la circoncision jadis instituée par Dieu, pour prouver que le Christ était de la descendance d'Abraham, pour retirer aux Juifs une excuse de ne pas le recevoir, Vous nous recommandez par son exemple la vertu d'obéissance, puisqu'il était venu dans la ressemblance avec la chair du péché, pour qu'il ne repousse pas le remède qui purifiait ordinairement la chair du péché. Enfin, pour délivrer les autres du fardeau de la loi, en portant ce fardeau lui-même. C'est évident que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas de nécessité de recevoir cette circoncision. Circoncision, pour un catholique, aujourd'hui complètement disparue, et c'est une coutume purement juive. Donc il ne faut pas, même pour des raisons d'ordre familial par exemple, circoncire les enfants catholiques, parce que la circoncision reste une coutume typiquement juive. Nous ne sommes pas des juifs de religion juive, nous sommes de religion catholique, c'est pas pareil, pas tout mélangé. Donc le Christ a accepté la circoncision pour qui est un remède contre le péché originel, alors qu'il n'avait pas le péché originel, pour nous libérer du joug de la loi et produire en nous la circoncision spirituelle. C'est-à-dire qu'il voulait, en acceptant la figure, accomplir la réalité. Donc la circoncision du Christ représente la circoncision spirituelle, c'est-à-dire la pénitence que nous devons faire dans l'usage de notre intelligence. Ensuite, on va imposer le nom à Jésus. Quand fut écoulé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus. C'est dans Saint Luc chapitre 2. Alors voilà ce que dit Saint Thomas. Je passe rapidement sur ces passages faciles. Le Christ en tant qu'homme avait reçu ce don gratuit de sauver tous les hommes. C'est donc très justement qu'on l'a appelé du nom de Jésus, c'est-à-dire sauveur. C'est l'explication qui est donnée par les pères. Jésus représente le mot sauveur. Alors quand on continue avec l'oblation de Jésus au temple, donc ça c'est le 2 février, le Christ a voulu naître sous la loi de Moïse, afin de racheter tous ceux qui étaient sous la loi et afin d'accomplir spirituellement dans ses membres la justification de la loi. Alors je passe, parce que là il n'y a pas de problème particulier, c'est pas des questions très importantes. Donc cette circoncision, c'est un texte important là, du Christ, nous montre que personne n'est digne d'être gardé par Dieu s'il n'est pas circoncis de ses vices. Il faut être circoncis d'abord de l'influence du démon sur nous. Alors saint Thomas se pose la question, elle est partie très belle là, en exégèse. Saint Thomas se pose la question de savoir pourquoi Saint Vierge Marie et Saint Joseph, qui arrivent au temple le 2 février pour présenter l'enfant Jésus, qui vont rencontrer la prophétesse Anne et Siméon, le prophète, et bien pourquoi ils ont apporté avec une tourterelle, une colombe. Et voilà ce que dit Saint Thomas. Donc là, Saint Thomas agit pas simplement comme grand théologien, mais aussi comme très grand exégète. Voilà ce qu'il dit. La tourterelle qu'on entend sans cesse symbolise la prédication de la profession de foi, parce qu'elle est chaste. Elle symbolise la chasteté. Les anciens pensaient, je pense que c'est vrai, que la tourterelle femelle était fidèle à la tourterelle mâle pendant toute sa vie, restée ensemble en couple pendant toute la vie. Et aussi parce qu'elle est solitaire, qu'elle symbolise la contemplation. Donc elle symbolise la chasteté, la prédication de la profession de foi, par ce roucoulement permanent, elle symbolise aussi la solitude et la contemplation. Quant à la colombe, animal doux et simple, elle symbolise la douceur et la simplicité. En outre, c'est un animal grégaire, si bien qu'elle symbolise la vie active. Et c'est pourquoi une telle victime préfigurait la perfection du Christ et de ses membres. Ces deux oiseaux, à cause de leur gémissement, symbolisent les pleurs actuels des saints. La tourterelle, qui est solitaire, symbolise les larmes secrètes de la prière. Et la colombe, qui est grégaire, symbolise les prières publiques de l'Église. Chacun de ces oiseaux est offert par père pour que la sainteté ne soit pas simplement dans l'âme, mais aussi dans le corps. Vous voyez que saint Thomas donc utilise aussi sa science d'exégète. Puis ensuite, la purification de la Sainte Vierge Marie, de février, ceci, la purification de la Sainte Vierge Marie, voilà ce que saint Thomas va dire. Donc, bien qu'il ne fût pas soumis à la loi, le Christ a cependant voulu subir la circoncision et les autres contraintes de la loi afin de donner l'exemple de l'humilité et de l'obéissance, d'approuver la loi et d'enlever aux Juifs l'occasion de le calomnier. Pour la même raison, il a voulu que sa mère aussi accomplisse les observances de la loi auxquelles pourtant elle n'était pas soumise. Donc nous allons arrêter là pour ce soir et la prochaine fois Si Dieu veut, nous commencerons la question 38, c'est-à-dire le baptême de l'apôtre Saint Jean-Baptiste. Nous verrons ça la prochaine fois. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.